camarades et amis, nous allons commencer cette réunion publique. Vous le savez tous dans cette salle, nous nous présentons partout des listes aux élections régionales du 6 décembre prochain, des listes qui s'intitulent « Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs ». Dans la région Nord, Pas-de-Calais et Picardie qui nous concerne, la liste elle comprend 180 candidats répartis sur 5 départements. Tous sont issus du monde du travail. La tête de liste régionale se trouve à ma droite, Éric Fekker. Donc, qui est ouvrier dans l'automobile à Toyota dans le Nord, près de Valenciennes. À ma gauche, Roland Spirco, notre tête de liste départementale. Donc, ouvrier dans l'automobile à la retraite. Moi-même, donc, Hélène Beccherini, qui suis enseignante, et 23 autres colistiers, dont une bonne partie sont présents dans cette salle ce soir. Je ne vais pas les citer tous, mais ils ont tous leur badge et on peut les applaudir. Eh bien, je passe tout de suite la parole à Éric Fekker.
Camarades, ça marche, ça marche pas. Un, deux. On a pas besoin du micro. Bon. Camarades et amis, bienvenue à la fête de lutte ouvrière et un grand merci à tous ceux qui la rendent possible, qui permettent que l'on se retrouve cette année encore dans une ambiance fraternelle. Mais je vais d'abord vous lire le communiqué Lutte ouvrière publié ce matin au sujet des attentats de Paris. Voici le communiqué. Un massacre atroce et inqualifiable. Massacrer des gens dans une salle de spectacle, dans des bars et des restaurants, aux abords d'un stade. Ceux qui ont perpétré hier plusieurs attentats à Paris et à Saint-Denis ont voulu faire le maximum de morts, aveuglément. Ces attentats sont des actes ignobles. Nous exprimons notre émotion et toute notre solidarité avec les victimes et leurs proches. Quelles que soient les idées dont se réclament ceux qui ont perpétré ces attaques, ce sont des ennemis de tous les travailleurs. S'il se confirme qu'il s'agit d'islamistes, leur violence procède de la même barbarie que celle des djihadistes syriens ou irakiens qui cherchent par la terreur à mettre en coupe réglée des populations entières, à réduire les femmes en esclavage et à liquider tous ceux qui ne pensent pas comme eux. L'horreur des attentats perpétrés à Paris et à Saint-Denis renforce ceux que leurs auteurs prétendent combattre. Ils renforcent l'État français et instaurent l'état d'urgence et accroissent les mesures policières. Ils renforcent l'extrême droite, ses discours haineux vis-à-vis des musulmans et des immigrés et sa revendication d'un État plus fort. Nous partageons entièrement l'émotion de la population et en particulier de tous les proches des victimes de ces attentats. Mais nous n'avons aucune solidarité avec l'État français, avec ses dirigeants politiques. Ceux-ci ont une large part de responsabilité dans les guerres qui ensanglantent aujourd'hui le Moyen-Orient, des guerres dont Paris a eu hier soir un écho sanglant. C'est pourquoi Lutte ouvrière n'ajoutera pas sa voix au concert de l'unité nationale. Nous ne partageons rien avec les Hollande, les Sarkozy et les Le Pen. Toute notre solidarité va aux victimes et à leurs proches. Nous poursuivrons notre combat pour un monde débarrassé de l'obscurantisme, de l'injustice, de la domination impérialiste et de tous ces avatars. Oui, dans cette situation, il faut d'autant plus que la classe ouvrière se fasse entendre de façon indépendante, qu'elle affirme ses exigences contre tous ceux de la gauche à l'extrême droite qui essaieront de tout faire pour que la classe ouvrière se taise et se range derrière l'unité nationale, c'est-à-dire derrière nos exploiteurs. L'émotion légitime doit laisser place à la conscience et au combat de classe, car tous les mécanismes d'un engrenage mortel pour les travailleurs sont en place. Au nom de la lutte contre le terrorisme, on va nous forcer à nous aligner derrière le camp des gouvernements prétendument démocrates, mais qui mettent la planète à feu et à sang. Eh bien, ne nous laissons pas embrigader dans cette union sacrée. Ne laissons ni Hollande, ni Sarkozy, ni Le Pen parler au nom des travailleurs. Nous sommes tous des travailleurs, quelle que soit notre origine. Et il est vital que nous, travailleurs exploités, opprimés, nous nous sentions une classe unie par nos intérêts pour nous défendre contre nos exploiteurs, mais surtout contre un système capitaliste qui plonge l'humanité dans la barbarie. C'est dire toute l'importance de notre présence dans ces élections à venir et toute l'importance pour les travailleurs conscients de voter pour leur classe sociale et les perspectives communistes que nous défendons. Oui, dans 3 semaines, nous allons voter pour les élections régionales. Lutte ouvrière sera présente pour faire entendre le camp des travailleurs. Il faudra voter et faire voter pour notre liste dans le Nord-Pas-de-Calais et Picardie. C'est un combat politique où il faut se faire entendre partout où l'on peut et tout faire pour gagner des électeurs malgré la situation difficile pour les travailleurs. Nous sommes 184 candidats, comme Hélène l'a dit, issus du monde du travail, pour affirmer dans cette élection l'existence et les exigences de notre classe sociale, celle des exploités. Face à nous, tous les autres partis défendent l'ordre bourgeois. Nous sommes les seuls à défendre le camp de la classe ouvrière, le communisme et l'internationalisme. Et si dans cette élection, le gouvernement et le PS craignent de se prendre une gifle, eh bien, ils ne l'auront pas volé et ils la méritent. La situation du monde du travail continue de se dégrader sous les coups des attaques du patronat et du gouvernement. Hollande, Valls et Macron sont résolument au service des capitalistes. Et ils le prouvent tous les jours en s'en prenant au code du travail, aux conventions collectives, en laissant les patrons licenciés et en distribuant des milliards à fonds perdu aux grandes entreprises. Pour cette année 2015, en ne comptant que le crédit impôt compétitivité emploi et le pacte de responsabilité, c'est 24 milliards d'euros de cadeaux supplémentaires qui ont été offerts aux grandes entreprises. Et ce n'est pas fini. Ce devrait être 33 milliards d'euros en 2016 et 40 milliards en 2017. Et ce qui est donné d'un côté est évidemment repris de l'autre par le déremboursement des médicaments, les attaques contre les retraites, les baisses des budgets des hôpitaux, des collectivités locales. Alors, ce gouvernement, comme les précédents, est au service de la classe capitaliste. Et il nous ment quand il prétend que les aides colossales distribuées aux grandes entreprises créeront de l'emploi. La politique gouvernementale n'a jamais eu pour objectif la création d'emplois. Elle a pour unique but de préserver, voire d'augmenter les profits patronaux en détournant les fonds publics vers les coffres de la grande bourgeoisie. Si bien qu'aujourd'hui, le chômage continue d'augmenter et il touche désormais 6 millions d'entre nous. L'assèchement des caisses publiques conduit aussi à la dégradation des services utiles à la population, de l'éducation à la santé, des services rendus par les collectivités territoriales au transport. Il n'est question que d'économie, de restrictions budgétaires, de réorganisation, d'aggravation des conditions de travail et au final de la détérioration de ces services. Alors, si le gouvernement voulait vraiment créer de l'emploi, il pourrait utiliser ces milliards offerts au patronat pour embaucher directement dans tous ces services. Et s'il ne le fait pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas possible. Non, c'est un choix. Le choix de mener une politique en faveur de la classe des riches et des capitalistes. Cela fait des années que, mesure après mesure, que de prétendues réformes en vrai recul, cela dure et s'aggrave. tout va dans le même sens. Servir les intérêts du grand patronat au détriment de la vie de l'immense majorité de la population et du monde du travail. Pourtant, de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Les entreprises du CAC 40, les 40 plus grandes entreprises du pays, annoncent pour les 6 premiers mois de l'année 2015 40 milliards d'euros de résultats. 40 milliards de profits, c'est une somme considérable. Juste pour donner une idée, cela représente l'équivalent du salaire annuel de plus de 1,5 million de travailleurs. Eh bien non, nous ne pouvons pas accepter d'être sacrifiés pour augmenter encore les fortunes de quelques centaines de gros actionnaires et de familles bourgeoises. Oui, les travailleurs de la Smart en Moselle ont eu 1000 fois raison de dire non au chantage grossier dont ils ont été victimes. 39 heures payées 37, ou bien des licenciements. Ici à Compiègne, les travailleurs de Sanofi ont raison de résister au chantage à l'emploi de la direction qui veut leur imposer des horaires à rallonge, comme ceux de Continental ou d'UTI ont eu raison de se battre pour ne pas être jetés dehors sans rien. Comme les travailleurs d'Air France ont eu raison de manifester leur refus des 2900 suppressions d'emplois. Le patronat ne cesse d'exiger toujours plus, continue de licencier, de faire baisser les salaires par tous les moyens. Il mène une guerre de classe. Et il peut compter sur les gouvernements successifs pour cela. Et à Air France, on a pu voir tous les politiciens, de la gauche à la droite jusqu'au Front National, condamner le coup de colère des salariés. Cela a été gauche, droite, Front National, même combat contre les travailleurs. Et même aujourd'hui, alors qu'Air France a annoncé avoir réalisé 500 millions d'euros de bénéfices nets au troisième trimestre, le gouvernement, est-ce qu'il intervient pour refuser le plan de licenciement? Eh bien non, il continue de soutenir la direction et ses mensonges sur les difficultés de la compagnie. Alors, tout notre soutien doit aller aux 5 salariés licenciés par Air France. La crise économique est devenue un mode d'existence du système capitaliste. Ces derniers soubresauts se sont manifestés cet été avec la crise boursière à Shanghai, en Chine, avec la chute des valeurs boursières dans le monde entier, avec la dévaluation de la monnaie chinoise et avec la chute des prix des matières premières. Au rythme des bulles spéculatives qui éclatent, les dirigeants de l'économie continuent de danser sur un volcan malgré la menace d'un effondrement de leur système qui risque d'entraîner toute la population de la planète dans sa chute. Pour l'heure, les possesseurs de capitaux, comme ceux qui possèdent les grandes, banques et les industries, s'en tirent plutôt bien. Certes, il y a la guerre qu'ils se livrent entre eux et où les gros mangent les plus petits. Mais au bout du compte, cette guerre a surtout des conséquences désastreuses pour les classes laborieuses. Les grands bourgeois et même nombre de petits sont prêts à tous les mensonges, à toutes les magouilles pour quelques profits supplémentaires. On a vu récemment le groupe Volkswagen utiliser les progrès en informatique pour fabriquer des appareils capables de cacher les émissions de CO2. Et maintenant, on voit les gouvernements européens qui acceptent de doubler les seuils d'émissions polluantes des automobiles pour que les autres constructeurs ne soient pas pris la main dans le sac. Et ce n'est pas le pire. Ils sont capables de détruire des régions entières, comme dans le delta du Niger en Afrique, où les populations sont condamnées à vivre dans une marée noire permanente. Ils sont capables de mettre le monde à feu et à sang pour maintenir leur mainmise sur le monde, pour imposer des régimes politiques qui soient favorables à leurs intérêts économiques et stratégiques. C'est ce qui se passe actuellement en Syrie, en Irak, en Libye, en Afghanistan. C'est ce qui se passe également en Afrique ou en Amérique latine. Oui, ce monde est barbare, barbare et absurde, car il n'est régulé que par le marché capitaliste, c'est-à-dire après coup et uniquement sur la base des besoins solvables de ceux qui peuvent payer. Et cela, à une époque où l'humanité est capable de réaliser des prouesses en informatique, en communication, en gestion des données, je ne cite que ces domaines qui permettraient facilement de cesser de produire à l'aveugle et qui permettrait de recenser les besoins en matières premières, en biens de production, en biens de consommation, et de produire en fonction de ces besoins. C'est de cette situation et de ces possibilités que les idées communistes puisent leur force. Le communisme n'est pas un bel idéal poursuivi par de doux rêveurs. Marx et Engels et tous ceux qui ont représenté ces idées, Lénine, Rosa Luxembourg, Trotsky et bien d'autres, considéraient que les moyens économiques existaient pour l'émergence d'une société basée sur la satisfaction des besoins d'humanité. Ils considéraient également que l'outil social qui permettrait de parvenir à cette société existait lui aussi. Cet outil pour révolutionner la société, c'est la classe ouvrière, la classe sociale qui crée toutes les richesses, qui est concentrée dans les villes, près des centres du pouvoir de la bourgeoisie et qui n'a aucun intérêt dans la survivance de système. Et les révolutionnaires ont combattu pour que la classe ouvrière prenne conscience de sa capacité à renverser le pouvoir de la bourgeoisie et à mettre en place le sien au nom des intérêts de toute la société. C'est cela le combat communiste. Et dans ce combat, les révolutionnaires ont toujours lutté contre ce qui obscurcissait la conscience des exploités, contre tout ce qui pouvait les diviser, en particulier les idées de nation, d'intérêt national, les idées du nationalisme. Ce qui a caractérisé le mouvement socialiste d'abord, puis le mouvement communiste ensuite, c'est l'affirmation de cet internationalisme, cette volonté d'afficher la communauté d'intérêts des prolétaires du monde entier, indépendamment des frontières et de la nationalité. À ce propos, je voudrais citer un court texte écrit en 1905, il y a plus d'un siècle, par un dirigeant de la CGT qui s'appelait Griff Wells. Voilà ce qu'il disait à propos des migrants et plus généralement à propos de la situation de la classe ouvrière. Je cite « Le prolétaire, dès qu'il a l'âge d'homme, est le plus souvent contraint de s'éloigner, allant à la recherche d'un travail qu'il fera vivre. Il s'éloigne parce que la besogne vient à manquer ou parce que, désireux d'améliorer son sort, il a osé réclamer un meilleur salaire. Alors en retour, il est congédié par son patron. » Qu'il signale à ses confrères, il doit fuir le milieu qu'il a vu naître, couvrir les villes, qui est mendiant de l'ouvrage, et il s'arrête là où un atelier ou un chantier lui est ouvert. Il s'installe, il travaille, il vit, il se fait un foyer, il élève sa famille. Le lieu où l'ouvrier travaille, là est sa patrie. A-t-il, dans sa course vagabonde et incertaine, traversé une frontière ? Qu'importe, il a quitté un lieu inhospitalier pour aller dans l'inconnu, jusqu'au moment où il a trouvé à vendre son travail. Eh bien voilà, voilà comment il faut encore aujourd'hui comprendre le problème des migrants. Ces idées sont les nôtres, aujourd'hui encore, face au développement des idées nationalistes chauvines, xénophobes, propagées par tous les partis bourgeois, le PS, la droite, le Front National, qui sont autant de chaînes à la conscience collective de la classe ouvrière. Le mouvement ouvrier révolutionnaire s'est construit sur la base des idées communistes et internationalistes il y a plus d'un siècle, parce que les travailleurs étaient portés par des idées qui traversaient les frontières. Ils savaient que partout dans le monde, les ouvriers étaient exploités comme eux. Ils savaient que partout dans le monde, les ouvriers luttaient. Ils étaient unis dans une même force, une conscience de faire partie d'une même classe ouvrière à travers les frontières. Et ce sont ces travailleurs qui ont formé les partis ouvriers révolutionnaires. Ce sont eux qui se sont unis dans une internationale ouvrière avec des millions d'ouvriers sur tous les continents pour contester le pouvoir de la bourgeoisie. Ce sont ces idées, ces combats dont nous sommes fiers, dont nous nous revendiquons, que nous voulons exprimer. Nous en sommes convaincus. C'est armé de ces idées communistes et internationalistes que les travailleurs redeviendront une force. Ceux qui, parmi les nôtres, croient que les frontières nationales peuvent nous protéger se trompent. Et ils se trompent doublement. D'abord, parce que les frontières nationales ne protègent que les intérêts des capitalistes quand ils en ont besoin face à la concurrence des capitalistes des autres pays. Mais surtout, ils se trompent parce que lorsque les travailleurs se laissent diviser, cela renforce la bourgeoisie. La bourgeoisie exploite les travailleurs du monde entier. Contre nous, elle est capable de s'unir par-delà les frontières. La lutte de classe est internationale. Nous devons affirmer que notre force, elle est dans l'unité de la classe ouvrière de tous les pays contre nos exploiteurs communs, les capitalistes. Alors oui, nous communistes, nous pensons qu'il est dans l'intérêt des travailleurs de s'unir pour parvenir un jour à renverser le pouvoir de la bourgeoisie. La guerre que mènent les armées occidentales, l'armée française, au Proche-Orient, à des milliers de kilomètres, a des conséquences politiques ici, en Europe et en France, avec les attentats d'hier. Non seulement les gouvernements rétablissent des frontières et érigent des clôtures comme on parque des animaux, mais il y a aussi un renforcement de la vague réactionnaire que ces guerres entraînent. Vague réactionnaire chevauchée et aggravée par les discours xénophobes et anti-immigrés de la droite et du Front National. C'est le gouvernement PS qui commande la guerre, mais ce sont la droite et l'extrême droite qui en sortent renforcées politiquement. Et c'est la population qui paye un lourd tribut en retour, au bout du compte, par des morts et des blessés dans les attentats de Paris. Voilà pourquoi tous les travailleurs du monde entier ne sont pas uniquement des frères en humanité, mais doivent aussi et surtout être des frères de combat. Ces idées, même si elles sont nées au XIXe siècle, sont résolument modernes car elles permettent à tous ceux qui veulent combattre ce système d'exploitation, d'oppression et de guerre de se retrouver dans la seule force capable de le bouleverser. Cette force ne peut se constituer que si les travailleurs parviennent à se rassembler, à s'unir, à s'organiser et à se donner un parti qui a pour seul objectif de défendre les intérêts matériels et politiques du monde ouvrier. Alors, c'est au nom de cette nécessité que notre courant communiste veut se manifester à l'occasion des élections régionales du 6 décembre prochain. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans cette élection, en face de nous, tous les autres partis défendent l'ordre bourgeois et nous sommes les seuls à défendre le camp de la classe ouvrière. Bien sûr, le PCF, le Front de Gauche, les Verts critiquent aujourd'hui le gouvernement pour tenter de ne pas être emporté par son discrédit. Mais ils n'ont pas d'autre stratégie que l'alliance avec le Parti Socialiste, que de participer au pouvoir aux côtés du PS, alors que le PS au pouvoir défend les intérêts de la minorité des plus riches et pas ceux des travailleurs et de la majorité de la population. À droite, Xavier Bertrand a été ministre de Sarkozy et à l'époque, le chômage n'avait pas cessé d'augmenter. Alors, comment pourrait-on croire aujourd'hui celui qui n'a pas pu ou pas voulu endiguer le chômage à l'époque quand il clame sur tous les toits qu'il va créer 60 000 emplois de plus? Pierre de Saint-Ignon, pour le Parti Socialiste, n'a pas d'autre programme pour faire voter pour sa liste que la crainte que ce soit le Front National qui se retrouve à la tête de la région. Quant à Marine Le Pen, son seul programme, c'est d'accéder à la même mangeoire que le PS et la droite pour y mener la même politique au service du patronat. Certains, autour de nous, écœurés par les politiques des gouvernements successifs de la droite et de la gauche, se disent que Marine Le Pen, on ne l'a jamais essayé. C'est d'ailleurs le seul argument du FN de se prétendre contre l'UMPS. Eh bien, c'est une supercherie. Marine Le Pen est une politicienne comme les autres. Elle fait comme les autres quelques promesses et une fois au gouvernement, elle mènera la même politique, celle que lui dicteront les patrons. Marine Le Pen a parlé de l'augmentation du SMIC et du retour à la retraite à 60 ans. Quelques vagues promesses en direction des classes populaires parce qu'elle a besoin de ses voix pour se faire élire. mais son électorat traditionnel, ce sont ses patrons bien réactionnaires qui haïssent les ouvriers. Ces patrons, quand ils entendent retraite à 60 ans ou même petite amélioration du salaire, ont leurs cheveux qui se dressent sur leur tête. Alors, qu'est-ce qu'a fait le Front National ? Il a nettoyé son programme de ce qui servait de façon démagogique à plaire au milieu populaire. Il n'est pas encore au pouvoir qu'il y renonce déjà. Comme le PS et la droite, le Front National ne parle que d'attirer les patrons à coups de subventions. Comme les autres, le FN se prépare à piller les fonds publics pour faire des cadeaux au patronat. Comme les autres, il se prépare à s'attaquer aux salaires, aux conditions de travail, aux conditions de vie des classes populaires pour augmenter encore les profits des grands groupes capitalistes. Alors, ça suffit. Le PS, la droite et le FN roulent tous pour le patronat. Voter pour eux, c'est voter pour les ennemis de la classe ouvrière. C'est voter pour ceux qui nous ont tapé dessus et ceux qui se préparent à le faire. Quant à ceux autour de nous qui parlent de s'abstenir, moi je leur dis que s'abstenir, c'est se taire. Nous ne sommes peut-être pas aujourd'hui en mesure de rendre les coups, mais nous ne sommes pas obligés de leur dire merci. Nous pouvons leur dire que nous n'acceptons pas d'être les sacrifiés de leur crise, que nous ne croyons pas à leurs mensonges quand ils prétendent que ce qui est bon pour un patron, pour l'entreprise, disent-ils, c'est bon pour la société, ou que la baisse des charges permettrait de lutter contre le chômage. Voter pour la liste lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, c'est défendre ses intérêts de classe sociale. C'est dire que pour combattre le chômage, il n'y a qu'une seule solution pour le monde du travail. C'est revendiquer l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous, sans diminution de salaire. C'est dire aussi que les salaires et les retraites et les allocations devraient augmenter et que cette augmentation se fasse au rythme des hausses des prix. C'est dire qu'il faudrait supprimer le secret des affaires pour dévoiler les arnaques des banquiers et les choix des grands actionnaires qui préfèrent licencier et augmenter le chômage plutôt que de devoir diminuer leurs profits. Il faut dénoncer la hausse des impôts et des taxes qui frappent les salariés, alors même que l'État n'augmente pas en conséquence sa contribution aux services utiles à la population, en particulier dans les domaines de la santé et des transports, en consacrant une part importante du budget au paiement des intérêts de la dette, l'État contribue au parasitisme du grand capital de plus en plus financier. Voter pour la liste lutte ouvrière que je conduis, c'est dire qu'on ne se résigne pas. C'est s'exprimer contre tous ces partis qui défendent ouvertement les intérêts capitalistes du PS à la droite et à l'extrême droite. Et en votant pour notre courant, ils pourront le faire clairement, c'est-à-dire sans cautionner les partis qui se disent à la gauche de la gauche, mais qui, d'une manière ou d'une autre, mettent en avant la défense de l'intérêt national, une tromperie destinée à diviser les travailleurs. Je le répète, il s'agit pour nous de faire entendre le camp des travailleurs, mais aussi de manifester nos convictions communistes. Le capitalisme est en faillite. Il faut changer ce monde injuste et inégalitaire. Et pour cela, convaincre le maximum de jeunes, de travailleurs, de la nécessité de renverser le pouvoir de la bourgeoisie et d'œuvrer pour une société dirigée par ceux qui produisent toute la richesse, les travailleurs. Les journalistes aiment nous dire qu'on ne représente qu'un petit pourcentage. Nos idées n'ont pas le vent en poupe aujourd'hui, c'est vrai. Mais ce sont les seules idées d'avenir pour la classe ouvrière. Ceux qui voteront pour lutte ouvrière montreront à l'ensemble du monde du travail qu'il existe aujourd'hui une fraction de travailleurs qui ne se résignent pas et affirmeront un drapeau et une politique ouvrière. Ils montreront, en votant pour lutte ouvrière, qu'il y a des milliers de travailleurs qui ne tombent pas dans le piège de l'unité nationale, le piège du nationalisme qui divise les exploités. Et les dizaines de milliers de travailleurs conscients qui feront ce geste de voter pour la liste Lutte ouvrière représenteront une force demain quand la combativité de la classe ouvrière remontera. Et c'est à partir de ces dizaines ou centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs anonymes pour le moment qui sauront que notre courant existe et qui voteront pour nos listes que renaîtra un vrai parti ouvrier. Alors le 6 décembre, votez et faites voter autour de vous, votre famille, vos amis, vos camarades de travail pour la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs.
Je passe la parole à Roland Spirko.
Je voulais juste ajouter quelques mots à propos de l'importance de notre mobilisation à tous pour faire voter pour notre liste Lutte ouvrière. Chacun peut y apporter sa contribution dans la mesure de ses moyens. Et il ne nous reste plus que 3 semaines avant le 6 décembre. Bien sûr, il faut le dire, ce ne sont pas nos efforts, aussi acharnés soient-ils, qui nous permettront d'inverser le cours des choses tel qu'il y a aujourd'hui. Et chacun de nous peut vérifier que le cours dominant est réactionnaire. Encore une fois, les événements que nous venons de vivre risquent fort de le renforcer encore. Mais justement, ce sont dans ces moments-là que nous pouvons montrer la profondeur de l'attachement à nos idées et rendre crédible pour l'avenir l'alternative communiste révolutionnaire que nous représentons. Ce qui est à notre portée, c'est de faire savoir partout autour de nous qu'il faut que la classe ouvrière, notre classe, se rassemble sur son programme et conteste le plus radicalement possible le sort qui lui est réservé. Car le vote pour la liste Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs sera un vote de classe qui affirmera la nécessité pour les travailleurs de se battre pour leur peau contre le patronat et tous les partis à ses ordres. Convaincre autour de nous un collègue de travail, un voisin, sera le moyen de renforcer notre camp. Et un vote gagné, des dizaines d'autres personnes auront entendu notre voix, notre message. Dans la tempête actuelle, où tous les vents porteurs mènent toute la société en arrière vers les pires catastrophes, il est vital que notre petite lumière, notre phare, continue de briller et indique la voie pour sortir du marasme et de la fange. C'est notre façon de préparer l'avenir. C'est ce qui doit nous motiver plus que jamais pour redoubler d'efforts. Alors nous faisons appel à toutes les bonnes volontés ici présentes pour nous aider à faire campagne et nous soutenir financièrement pour le faire. Alors cette campagne, elle peut poser une balise. Grâce à nos efforts à tous, pour le retour d'un monde du travail conquérant qui dira alors « l'avenir est à nous ».
Camarades, donc Eric et Roland l'ont dit, hein, nous comptons sur vous. Vous avez à la table, personne ne va partir tout de suite, sans manger et sans boire, bien évidemment, mais vous avez à la table, au fond, donc des affiches pour les coller, des tracts. Vous pouvez nous laisser vos coordonnées si vous ne l'avez pas déjà fait. Encore une fois, il nous reste quand même 3 semaines pour défendre l'idée que les travailleurs conscients doivent voter pour leur camp. Les élections coûtent cher, Roland l'a dit, et nous pouvons compter que sur le soutien de notre classe. Alors je dis d'ailleurs, j'en profite pour le dire, pour que vous ne soyez pas surpris, les électeurs, bien sûr, recevront notre circulaire et pourront connaître pour certains et découvrir nos idées pour certains à cette occasion, mais le bulletin de vote ne sera pas envoyé à domicile. Hein, pour des raisons d'économie, donc évidemment vous le trouverez dans les bureaux de vote, et notre bulletin, eh bien, il sera écrit en rouge. Alors, nous avons besoin de votre soutien financier. Nous avons lancé une souscription afin que tous ceux qui le désirent puissent faire justement un geste en participant au financement de cette campagne. Là aussi, nous comptons sur vous. La campagne continue, bien sûr. Et il y a d'autres rendez-vous, en particulier donc vendredi 27 novembre aura lieu un autre meeting à Creil avec Eric et Roland, je ne sais plus exactement où. Au centre des rencontres, vous avez l'adresse sur les tracts. Voilà. Donc camarades, nous allons commencer la partie festive de cette soirée. Et pour ce faire, nous allons vous demander une petite opération de déplacement qui va être agréable puisqu'il s'agit de se diriger vers l'apéritif. Donc de passer de l'autre côté au fond de la salle pour que les camarades puissent installer les tables. Je pense que tous les camarades avaient réservé leur place si jamais il y avait des égarés. Il y a Gwen qui est au fond de la salle que vous pouvez aller voir. Et maintenant, pour finir cette réunion publique, je vous propose de chanter le chant des travailleurs du monde entier, l'International. Mmh.